vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tâcher de répondre à vos questions concernant vos droits à la retraite. Que vous soyez une personne diagnostiquée ou que vous soyez un aidant, vous vous interrogez certainement sur ce que cette situation implique, sur la manière dont sera calculée votre retraite, et c'est bien normal. Pour vous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui non pas une, mais deux expertes de l'association France Alzheimer et maladies apparentées, Lorraine Gilly, responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association, et Hélène Delmotte, journaliste et experte médico-sociale. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous vous proposons donc deux épisodes consacrés au sujet. Dans ce premier épisode, nous échangerons autour de la retraite des aidants et dans un épisode complémentaire, vous pourrez retrouver toutes nos réponses concernant la retraite des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Aujourd'hui en France, on estime qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants, dont plus de 5,5 millions soutiennent de manière quotidienne leurs proches malades. Beaucoup d'aidants sont ainsi dans l'obligation de mettre entre parenthèses leur carrière de manière temporaire ou définitive, ce qui impacte forcément leur retraite. Hélène Delmotte, aujourd'hui, quelle compensation prévoit le système de retraite pour les aidants? On parle notamment de l'AVA, Assurance Vieillesse des Aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien volontiers. Alors effectivement, depuis le 1er septembre 2023, l'AVA, comme vous l'avez dit, l'assurance vieillesse des aidants, est venue remplacer l'assurance vieillesse des parents au foyer. Alors cette nouvelle AVA, elle permet aux aidants de valider des trimestres pleins de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche en situation de handicap. Et donc elle permet de valider des trimestres sans avoir besoin de verser des cotisations à une caisse de retraite.
Et alors, quelles sont les conditions requises pour avoir droit à cette AVA? Qui peut en bénéficier?
Alors, ces droits à la retraite des aidants, on va dire qu'ils concernent deux profils principalement. Donc, premièrement, les parents dont l'enfant a un taux d'incapacité inférieur à 80%, mais qui sont éligibles au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce qui permet notamment donc, aux parents d'enfants bénéficiaires de la PCH, je le rappelle, prestation de compensation du handicap, de se voir ouvrir des droits à la retraite au régime général. Le deuxième profil, donc, ce sont les aidants d'un adulte handicapé qui ne vivent pas sous le même toit ou ne sont pas parents avec la personne aidée, mais qui entretiennent un lien stable et étroit avec elle. Et ce droit à la retraite est également maintenu pour les bénéficiaires du congé de proche aidant et les bénéficiaires de l'allocation journalière du proche aidant.
Et alors, comment les trimestres sont comptabilisés pour les aidants ?
Alors, la loi du 20 janvier 2014, donc garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, a introduit la majoration de la durée de l'assurance vieillesse pour les proches aidants d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap. Le proche aidant bénéficie ainsi d'un trimestre de majoration par période de 30 mois, dans la limite de 8 trimestres. Alors, cela étant précisé, il y a 4 éléments importants à retenir. Donc, le membre de la famille en incapacité, son incapacité doit être d'au moins 80%. Le deuxième élément, si on est en couple, l'autre membre n'en bénéficie pas. Troisième élément, il faut avoir totalement cessé de travailler. Et enfin, chaque période de 30 mois dont je parlais doit être ininterrompue.
Je rebondis juste sur un point. En couple, l'autre membre n'en bénéficie pas. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Si un aidant vient en aide à une personne qui a besoin de cet accompagnement au quotidien, si elle est en couple, il y aura une seule personne qui bénéficiera donc de ce dispositif.
D'accord. C'est-à-dire que si on est en couple et que chacune des deux personnes s'occupe d'un proche malade, il n'y a qu'un des deux qui peut être aidant en fait pour la retraite.
Voilà, tout à fait, à condition de remplir les conditions que j'ai citées auparavant.
D'accord. Seulement pour les personnes mariées, pacsées,
en couple, effectivement.
En couple.
Peu importe.
D'accord. Merci pour cette précision. Alors, on le sait, il y a eu beaucoup de débats et de changements ces dernières années concernant les droits à la retraite. Aujourd'hui, la retraite de base de l'assurance retraite de la Sécurité sociale, elle est accordée à taux plein. Soit si vous partez à la retraite avant 67 ans en ayant un nombre suffisant de trimestres d'assurance retraite, un nombre qui peut varier selon votre année de naissance, soit si vous partez à la retraite à 67 ans, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite. Mais alors du coup, du côté des aidants, est-ce qu'il y a une mesure qui a été mise en place afin qu'ils puissent accéder à une retraite à taux plein ?
Alors effectivement, pour le départ à la retraite à taux plein, il existe une mesure dérogatoire pour l'aidant familial. Donc l'aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche handicapé qui a réduit ou cessé son activité pendant au moins 30 mois peut prendre sa retraite à taux plein, donc à 65 ans, même s'il est né après le 1er juillet 1951 et n'a pas validé tous ses trimestres. S'il a moins de 65 ans, le taux minoré, c'est ce qu'on appelle la décote, sera déterminé en tenant compte de deux éléments, le nombre de trimestres manquants et le nombre de trimestres qui le séparent de l'âge du 65e anniversaire. Et par chance, on peut dire, c'est le taux le plus élevé qui sera retenu.
Alors, Lorraine Gilly, je le rappelle, vous êtes responsable du suivi des politiques publiques au sein de l'association. Quels sont les éléments auxquels France Alzheimer prête particulièrement attention concernant la retraite des aidants ? Quelle est la position, en fait, de l'association sur le sujet ?
Oui, alors tout d'abord, j'aimerais rappeler que France Alzheimer et maladies apparentées a suivi le déploiement de la stratégie Agir pour les aidants 2020-2022. Nous avons été membres du comité de suivi de cette stratégie et nous avons fait partie donc des membres qui ont pu faire aussi part de leur évaluation sur la mise en œuvre de cette stratégie en 2023, juste avant de travailler sur le contenu de la future stratégie qui a été présenté donc le 6 octobre 2023 et qui est le deuxième volet stratégie Agir pour les aidants 2023-2027. Voilà, donc nous sommes véritablement partie prenante de cette stratégie Agir pour les aidants et nous tentons de porter la voix des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées et de leurs aidants au sein de cette stratégie pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Sur le sujet de la retraite des aidants particulièrement, France Alzheimer prête attention à l'évolution des droits et des dispositifs, notamment, mais aussi à la lourdeur administrative qui peut freiner l'accès à ces droits, au manque d'informations à destination des personnes concernées qui peut véritablement favoriser le non-recours. Mais nous sommes également attentifs à l'accessibilité ou à l'élargissement de ces droits ou dispositifs à l'ensemble des aidants accompagnant une personne en perte d'autonomie, quelle qu'en soit l'origine et quel que soit l'âge de la personne aidée. Je m'explique, car il est important de rappeler ici qu'une personne qui est diagnostiquée à Alzheimer ou maladie apparentée avant 60 ans est reconnue adulte handicapé et qu'une personne qui est diagnostiquée après 60 ans est reconnue personne âgée dépendante, ce qui peut créer des situations complexes et d'inégalité en termes d'accès aux droits ou aux dispositifs dont on parle ici et dont vous a parlé Hélène.
La différence crée une subtilité du coup.
Oui, en termes de restrictions d'accès, on va avoir des dispositifs qui sont ou pas accessibles en fonction de restrictions dont on vous a parlé tout à l'heure et qui vont être différentes selon que vous soyez diagnostiqué avant 60 ans ou après 60 ans.
Cette différence, elle implique quoi concrètement au niveau de la retraite ?
Alors, elle implique que vous pouvez, alors que vous êtes aidant de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, selon l'âge de la personne que vous accompagnez, vous pouvez ou non avoir accès à ces dispositifs en fonction des restrictions d'accès, en fait, à ces dispositifs. Donc ça, c'est un enjeu pour nous et c'est notamment pour ça qu'on demande la reconnaissance du handicap cognitif et des situations de handicap que vivent toutes les personnes malades, quel que soit leur âge. En gros, il faut répondre à leurs besoins et non pas leur permettre d'avoir accès à des dispositifs en fonction de leur âge.
Du coup, vous demandez un élargissement de l'AVA, mais vous demandez aussi à ce qu'elle reconnaisse davantage l'implication des aidants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, tout à fait. Alors, on demande un élargissement de l'AVA. On le demande notamment grâce au travail que l'on mène aux côtés du CIAF, du collectif interassociatif des aidants familiaux, et au travail que l'on mène aux côtés du collectif Je t'aide. Donc, c'est vrai que nous sommes partenaires du CIAF et du collectif Je t'aide et que nous participons à l'élaboration de leur plaidoyer, hein, au même titre que nous portons un plaidoyer, nous aussi, mais ensemble, on est plus fort. Et donc, on demande notamment concernant l'AVA, l'élargissement des conditions d'accès à des trimestres supplémentaires de retraite, la suppression de la condition de devoir interrompre son activité professionnelle sur 30 mois consécutifs, le bénéfice possible de l'AVA pour plusieurs aidants s'occupant d'une même personne. Et là, on rejoint ce dont vous parliez tout à l'heure avec Hélène.
Sur la notion de couple, du coup.
Et sur la notion de couple, tout à fait. Et nous demandons également la rétroactivité des droits à la retraite pour les aidants. Et j'aimerais rajouter que, donc, pour l'instant, hein, je vous rappelais tout à l'heure que la deuxième stratégie aidant 2023-2027 a été présentée le 6 octobre dernier. Nous attendons beaucoup de cette nouvelle stratégie. Pour l'instant, nous n'avons accès qu'à un dossier de presse de 28 pages à peu près, et qui ne contient qu'une seule ambition concernant l'AVA, c'est sa mise en œuvre effective. Pour nous, c'est un peu léger. Donc France Alzheimer souhaite déjà que les travaux autour de cette deuxième stratégie démarrent et que l'on évite de s'accrocher à des ambitions de mesurettes qui n'apportent pas de réponse assez robuste et solide compte tenu des besoins des aidants actuellement. Voilà, on se tromperait d'ambition et on ne répondrait pas aux besoins de l'ensemble des aidants. Et ça, c'est un véritable enjeu.
C'est aussi toute la question, c'est-à-dire qu'il y a une diversité des situations des proches aidants qui, du coup, n'est pas forcément comprise, comme vous venez de nous l'expliquer, dans l'AVA et dans d'autres projets qui concernent les aidants.
D'ailleurs, c'est une ambition que l'on peut retrouver sur de nombreux sujets hein, et de nombreux dispositifs ou droits que l'on crée. C'est très bien de les créer, mais effectivement, on a une diversité de situations qui fait qu'on a besoin de souplesse dans la création de ces droits et de ces dispositifs pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins et pouvoir véritablement accompagner les aidants au mieux. France Alzheimer demande la reconnaissance des situations de handicap vécues par l'ensemble des personnes malades, quel que soit leur âge. Et c'est aussi pour cela que l'on demande le décloisonnement entre le champ du handicap et le champ de la dépendance. Voilà, c'était un cloisonnement qui existait pour des raisons bien spécifiques que l'on a dépassé aujourd'hui et qu'il nous faut dépasser tous ensemble, car ça peut poser certaines difficultés quand on fait du plaidoyer notamment. Et que l'on demande l'augmentation des droits ou la création de certains dispositifs à destination des aidants. Le cloisonnement entre les champs de la dépendance et du handicap nous fait aussi perdre un temps précieux en termes de plaidoyer et en termes d'accessibilité aux droits pour l'ensemble des aidants qui ont besoin d'avoir des réponses concrètes, quelle que soit l'origine de la perte d'autonomie de la personne qu'ils accompagnent.
Vous faites notamment part de vos revendications, de vos propositions pour améliorer la situation des aidants sur la question de leur retraite dans un livre blanc. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, effectivement, de manière générale, France Alzheimer et maladies apparentées s'est emparée du sujet des aidants en activité professionnelle depuis de nombreuses années maintenant. En 2016, l'association a publié un livre blanc qui contient donc ses revendications principales quant à ce sujet des aidants en activité professionnelle. Un livre blanc qu'en 2018, nous avons mis à jour avec des propositions concrètes pour améliorer notamment la retraite des aidants de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Donc, dans ce livre blanc, dans cette édition 2018 qui a été transmise à l'ensemble des parlementaires, nous formulons plusieurs propositions qui rejoignent d'ailleurs les propositions qui ont pu être faites par la suite par le CIAF ou le collectif Je t'aide et que nous avons portées au sein de ces deux collectifs pour pouvoir nourrir leur plaidoyer. Donc vous avez par exemple amélioré les droits à la retraite pour les périodes d'interruption de l'activité professionnelle, accordé un crédit ou une réduction d'impôt aux entreprises qui mettraient en place des comptes épargne-temps pour leurs salariés afin de compenser des congés non rémunérés, ou encore soutenir les entreprises dans l'accompagnement de leurs salariés aidants, par exemple l'allègement des charges patronales pour l'emploi d'un temps partiel. Nous demandons également, aux côtés du CIAF et du collectif, la mise en place d'actions de formation et de sensibilisation à destination des aidants en activité professionnelle, des employeurs et des professionnels de l'emploi pour sensibiliser au rôle d'aidant et à ses impacts sur la santé, à communiquer sur les outils de prévention existants et à informer des outils administratifs et juridiques pour préparer sa retraite et faire valoir ses droits. Nous demandons également un maintien des droits à la retraite sur la base d'un temps plein et l'amélioration de l'information des aidants sur leur retraite en transmettant aux futurs retraités, dès les premiers courriers, des informations relatives aux droits des aidants familiaux et des proches aidants. Il est vrai que régulièrement, nous avons le témoignage d'aidants qui n'ont pas accès à ces droits car ils n'en ont pas été informés, ils n'ont pas reçu l'information, ils ne savent pas où chercher cette information. Et ensuite, ils se rendent compte que c'est un véritable parcours du combattant pour avoir accès à ces droits. Et ça, c'est inadmissible, inaudible, puisque nous devons rendre ces droits accessibles, diffuser de l'information et bien sûr s'assurer que les agents et les personnes concernées, tous les acteurs concernés, sont informés, formés pour pouvoir accompagner au mieux les aidants.
Que de belles revendications et très importantes, bien sûr. Quelles sont les prochaines étapes pour parvenir à faire entendre ces propositions, à faire entendre ces revendications ?
Alors tout d'abord, nous souhaiterions que cette deuxième stratégie aidant 2023-2027 démarre véritablement. Là, on vient de vivre une période de remaniement successif au niveau des ministères qui n'a pas permis un suivi des travaux véritablement robustes. Donc nous souhaiterions que ces travaux démarrent. Il est essentiel de se mettre au travail tous ensemble pour déployer cette nouvelle stratégie et les mesures qu'elle contient, que la volonté politique s'affirme à travers cette stratégie aidant par le soutien, les moyens humains et financiers qui seront mis derrière chaque mesure pour qu'elle soit mise en œuvre véritablement et que les droits et dispositifs soient véritablement accessibles aux aidants sur l'ensemble du territoire. Ça aussi, c'est une notion essentielle. Voilà. Et surtout, France Alzheimer et maladies apparentées est partie prenante de la construction de la future stratégie nationale maladies neurodégénératives 2024-2028 qui devait voir le jour officiellement fin janvier 2024 et nous sommes malheureusement le 26 février et rien n'a encore démarré et nous savons que un enjeu fort sera la transversalité qu'il y aura entre cette future stratégie maladie neurodégénérative et la stratégie aidant pour répondre aux besoins spécifiques des aidants de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Actuellement, donc, le ministre de la Santé et la ministre déléguée aux personnes âgées et aux personnes handicapées ont été nommées. Elles viennent de prendre leur poste, donc nous les avons contactées. Nous espérons une reprise des arbitrages, puisque nous en étions aux arbitrages ministériels sur cette future stratégie maladie neurodégénérative. Donc nous espérons pouvoir reprendre le dialogue prochainement. Et nous espérons surtout ne plus perdre de temps. Nous en avons assez perdu. Nous ne pouvons pas démarrer une stratégie maladie neurodégénérative 2024-2028 au mois de septembre 2024. Ça n'est pas possible. Les familles attendent beaucoup de cette future stratégie et nous devons répondre à leurs attentes.
Puis on espère bien sûr que vous serez vite entendus. Eh bien, merci à toutes les deux, Lorraine Gilly et Hélène Delmotte, de nous avoir aidés à faire le point sur la question des retraites pour les aidants. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode.
À bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Et chères auditrices, chers auditeurs, sachez qu'un épisode complémentaire sur la retraite des aidés a également été réalisé avec nos deux expertes. Je vous invite donc à le découvrir sur le site de France Alzheimer, la radio. Bonne écoute et très bonne journée.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.